province de l'Équateur, deux communautés du sud, Ubangi, les Ngbaka et les Ngbandi, sont en conflit foncier depuis plusieurs mois, causant la mort de plus de 20 personnes en quelques semaines. Au terme d'une mission parlementaire le week-end dernier dans cette région, un groupe de députés nationaux a proposé la mise en place d'un cadre permanent de concertation entre les deux groupes ethniques. Quelle analyse faire de cette situation et que faire pour prévenir les conflits interethniques en RDC? Nous en parlons avec Séraphin Moulimiloua, il est conseiller chargé de la décentralisation au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation du gouvernement central. Bonsoir Séraphin Moulimiloua.
Bonsoir.
Oui, il est au téléphone, c'est Nicolas Kwanza, il est député national de l'opposition et cadre du parti politique MLC. Il était chef de la mission parlementaire qui a séjourné au sud Ubangi. Bonsoir Nicolas Kwanza.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Et maître Gilbert Kassingé, il est avocat et expert en décentralisation. Bonsoir, maître Gilbert.
Bonsoir, Kassingé. Monsieur le journaliste. Bonsoir.
Plusieurs réactions dans cette émission, parmi lesquelles celle de Maurice Wachan Ouryema. C'est incroyable que les Congolais s'entretuent à cause des conflits fonciers. Notre pays a suffisamment d'espaces arables et vierges, non encore exploités pour tous les Congolais. C'est inadmissible qu'on continue à enregistrer des morts d'hommes pour la terre en RDC. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
C'est depuis le mois de novembre dernier que le conflit foncier interethnique entre les Ngbandi du territoire de Boudjala et les Ngbaka du territoire de Gemena a dégénéré. Quelle est l'origine de ces différends? Comment a-t-il été géré? Et comment se présente la situation sur le terrain actuellement? La réponse avec Dominique Wolombi Mongampangé.
Les conflits qui opposent les Ngbandi du secteur Bolingo, territoire de Boudjala, ou Ngbaka du secteur Bouassé, territoire de Gemena, datent de 1964. Les deux communautés se disputent les limites des étendues des pêches et des terres arables où elles cultivent. Chaque fois quand arrive la période des pêches, ces conflits refont surface. C'est ce qui est arrivé le 2 novembre dernier, après une altercation entre des membres de ces deux communautés. Il s'en est suivi une bagarre rangée avec des armes blanches. Les premiers accrochages ont fait 3 morts et une vingtaine d'habitations incendiées. Les autorités locales ont tergiversé pour se rendre sur le lieu et trouver une solution, a dénoncé la société civile. Les deuxièmes accrochages plus sanglants ont fait une vingtaine de morts. Comme la tension était très vive, d'abord, l'autorité provinciale a envoyé deux délégations, puis le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, et la délégation parlementaire diligentée par l'Assemblée nationale ont suivi pour calmer les esprits. Après avoir écouté les uns et les autres, la société civile et les comités locaux de réconciliation de Boudjala et de Gemena ont demandé qu'une commission aille fixer les limites qui seront acceptées par les deux parties. L'Institut géographique du Congo a été sollicité pour ce faire. Entre-temps, les deux communautés se regardent comme des chefs de faïence. Et plus de 10 000 Ngbandi déplacés et environ 600 Ngbaka réfugiés dans la forêt attendent l'assistance promise par les autorités, une assistance équitable à arriver. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Merci Dominique. Séraphin Moulimiloua, je rappelle que vous êtes conseiller chargé de la décentralisation au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation du gouvernement central. Les conflits interethniques à l'Équateur, quelle analyse vous en faites?
Merci pour la parole. Je voudrais de prime abord m'incliner en mémoire des victimes de ce conflit. Ce sont des vies humaines que nous avons perdues et nous déplorons cela.
Aussi, vous analysez ces conflits?
Oui. En fait, il faudrait ici essayer de comprendre que les conflits communautaires tels que nous avons vécu à l'Équateur, c'est lié certainement aux intérêts contradictoires qui ont été très mal gérés. Mais qu'en réalité...
Très mal gérés par qui? Par l'autorité coutumière, par l'autorité provinciale, par l'autorité politique?
Essentiellement, il faut noter que ce conflit est tout d'abord un problème foncier. Et c'est dommage que ce conflit arrive au moment où nous avons déjà des guides de médiation foncière, qui a été élaboré par ONI Habitat, où il y a des solutions où on pouvait appliquer pour que cela soit évité. Donc, nous disons ici, c'est une situation déplorable, dans la mesure où ça pose une question de gestion au niveau local. et qu'à ce titre-là, il y a des solutions appropriées qui doivent être apportées.
Voilà, ça, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Les facteurs causaux de ces conflits, l'on parle de la dispute autour des étangs piscicoles, des problèmes des limites des terres. Y a-t-il d'autres éléments causaux, à part ces deux que je viens de citer?
Visuellement, jusqu'à présent, en termes des éléments réunis, je pense que c'est ce qui était à l'origine. Puisqu'il faut noter, il y a une mission des beaux offices qui a été menée par le ministre de l'Intérieur, en charge de la décentralisation, sécurité, affaires coutumières, et que l'évolution, à mon avis, est déjà positive, dans la mesure où il y a des engagements de part et d'autre. Les gens acceptent de regarder vers la paix, vers la réconciliation, et qu'il y a seulement des éléments qu'il faut réunir pour que cela soit pérenne.
Et lorsque l'on apprend qu'à cause des étangs piscicoles, des dizaines de personnes trouvent la mort, des milliers de personnes fuient leur milieu d'origine, des cases sont brûlées, cela va, il faut le dire, au-delà même de la rationalité. Ça ne vous émeut pas, vous, en tant que gouvernement?
Je pense que c'est une question d'interpellation générale de notre peuple. Pourquoi? Puisqu'en fait, c'est une question à la fois de citoyenneté, un problème aussi d'une vision collective par rapport au développement, par rapport à ce qui doit nous unir. Problème de citoyenneté, pourquoi? Puisqu'en fait, au niveau local, vous allez noter que les investigations ont montré que les plus engagés dans ce conflit, c'est la jeunesse. Et qu'à ce titre-là, une jeunesse qui ne sait pas se contenir, une jeunesse qui ne peut pas prendre des repères pour dire les vies humaines sont sacrées, c'est une jeunesse qu'il faut réencadrer. Donc, au niveau des responsabilités, évidemment, au niveau communautaire, je pense que au niveau global, si nous rentrons au niveau de la gestion de la chose publique, nous avons quand même des acquis de la Constitution de 2006 qui essaye de consacrer la décentralisation, qui essaie de mettre les niveaux de responsabilité au niveau du pouvoir central et au niveau provincial, et les trois niveaux de gouvernance, au niveau national, provincial et au niveau des ETD.
Et ce conflit date depuis des années, les années 60. N'a-t-on pas été à mesure, n'est-ce pas, de trouver des solutions adéquates à ces conflits?
Bon, je pense que si nous rentrons dans l'histoire, nous trouvons que généralement, la République a suffisamment d'éléments, de repères en termes de réconciliation communautaire, puisque ce conflit, selon l'histoire, a été réglé pacifiquement autrefois, et que ça puisse ressurgir aujourd'hui, certainement, il y a des éléments causaux, et ces éléments-là, on va essayer de les intégrer définitivement dans ce qui sera trouvé comme solution. Et de mon point de vue, je pense que globalement, lorsque on gère très bien les niveaux locaux, en termes de responsabilités qui doivent être assumées, ce sont des choses qu'on peut éviter valablement.
Oui, vous avez dit que ces conflits ont été gérés pacifiquement, mais ça ressurgit aujourd'hui. Et jusque-là, les interventions, n'est-ce pas, des autorités, se sont toujours limitées à calmer les esprits, à mettre les parties autour d'une table, sans pour autant s'attaquer aux causes profonde. Est-ce que ce n'est pas ça qui explique le fait qu'il y a résurgence de ces conflits?
Je pense que si vous m'avez bien suivi, régler le problème définitivement, c'est poser concrètement les problèmes de gouvernance au niveau local, qui à ce titre-là, impliquer les communautés dans une gestion collective des destins, des projets qui impliquent les uns les autres, cela peut amener une solution durable et définitive. Et je pense que nous allons de plus en plus vers là. La mise en œuvre de la décentralisation qui va essayer de consacrer la gestion responsable des ETD, puisque quand vous analysez les conflits en RDC partout, c'est beaucoup plus au niveau des ETD, au niveau des villages, au niveau des conflits coutumiers, ainsi de suite, que ces problèmes-là se posent. Et je pense qu'avec la mise en œuvre de la décentralisation, il y a beaucoup de questions qui seront réglées définitivement lorsque la population est impliquée dans la gestion de la chose à la fois publique et communautaire.
Nous avons Sylvain Kassongo de Manono Katanga qui dit « La constitution d'un cadre permanent de concertation est une bonne chose, mais ces conflits sont souvent entretenus par des politiciens qui utilisent les communautés pour asseoir leur pouvoir. La concertation et la sensibilisation doivent commencer d'en haut, par les sommets. »
Oui, bon, je pense que concrètement pour ces cas ici spécifiques, Il est difficile d'établir qu'il y a eu des ficelles qui ont été tirées par les politiciens. De mon point de vue, la question a été beaucoup plus existentielle autour des questions, comme nous avons dit, foncières. Et qu'à ce titre-là, il est difficile d'établir une manipulation au niveau national et politique à cette étape ici.
Oui, mais parce qu'il y a déjà des problèmes fonciers qui se posent, est-ce que l'homme politique ne peut pas, parce qu'il sait que c'est la fibre sensible, il ne peut pas, pour des fins politiques, n'est-ce pas, exploiter ces conflits?
Je pense que le peuple congolais a suffisamment évolué dans sa vision. Et que il est difficile aujourd'hui qu'au nom des manipulations politiciennes, nous puissions sacrifier des vies humaines. Et je pense que, de mon point de vue, cette question trouvera une solution durable dans la mesure où les personnes qu'on peut craindre sont déjà impliquées positivement. Vous avez cité les niveaux provincial, les niveaux national et au niveau des députés qui sont descendus sur terrain pour essayer de résoudre ce problème. J'aime élever que ça va continuer positivement.
Merci Nicolas Akpanza, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique MLC. Vous étiez chef de la mission parlementaire qui a séjourné au sud Ubangi. Et vous avez été sur place, et vous vous êtes certainement entretenu avec le deux partis. Et comment vous expliquez ces conflits?
Oui, merci pour la question, monsieur le journaliste. Les conflits, à mon sens, ce sont des conflits qui ont surgi d'une façon, on peut dire même spontanée. Spontanée, pourquoi? Parce que je connais très bien l'historique de ces deux tribus en ce qui concerne la cohabitation pacifique. Les Ngbandi et les Ngbaka ont des liens séculaires, historiques et linguistiques communs. Et depuis lors, on n'a jamais constaté une telle barbarie entre les deux tribus qui se disputent de simples étangs, de simples espaces forestiers, voire même de simples limites entre groupements. Donc, quand j'ai eu à interroger les uns les autres, il y a eu un problème de responsabilité. On se jette la culpabilité et on ne s'explique pas réellement pourquoi une telle barbarie. Ben, toujours est-il que, comme il y a un intervenant qui vient de dire qu'il s'agit là de la fougue de la jeunesse, effectivement, la jeunesse n'est pas la défaite. La jeunesse est faite pour remporter des victoires. Alors c'est ainsi que, à interroger la jeunesse, on trouve comme si elle ne veut pas décolérer. C'est une jeunesse qui ne décolère pas, une jeunesse qui est engagée à tout prix à provoquer, à faire des représailles, à faire de la vengeance. Hein, par contre, ceux-là même qui les ont mis au monde, enfin qui a mis au monde et qui ont mis au monde la jeunesse, hein, vous trouvez un changement de comportement dès lors que nous étions avec eux, parce qu'eux ne jurent que par la paix, ils ne jurent que par la cohabitation pacifique, dès lors qu'ils ont constaté une barbarie humaine qui a fait en sorte qu'en étant record, on se trouve devant des cas de mort, un carnage.
Honorable Nicolas,
oui.
Vous semblez remettre en cause l'attitude, n'est-ce pas, de la jeunesse. Quels peuvent être les facteurs, n'est-ce pas, qui poussent cette jeunesse à afficher cette attitude que vous condamnez?
Oui, effectivement, il y a un problème de comportement. Le comportement, ça peut être engendré par plusieurs facteurs. Et en tant que psychologue, j'ai observé la jeunesse et j'ai même suivi les explications d'un jeune garçon qui a pris part aux différentes réunions que nous avons tenues avec les deux parties. Voilà l'explication de la jeunesse. La jeunesse prétend dire que elle n'a pas du travail, c'est une jeunesse désœuvrée. Alors elle doit chercher par tous les moyens à se débrouiller en cultivant les champs. Elle doit chercher par tous les moyens à se débrouiller en faisant la pêche. Mais dès lors qu'il y a quelqu'un qui vient enfreindre cette activité, en tout cas, il ne maîtrise pas son élan comportemental pour s'attaquer à n'importe qui en utilisant n'importe quelle arme. Parce qu'il n'y a pas que armes blanches, il y a également l'utilisation des armes blanches, enfin pardon, les fusées. C'est l'utilisation des fusées qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on déplore les morts.
L'explication donnée par la jeunesse n'est-elle pas rationnelle? Parce que, vous savez, ces gens qui vous disent qu'ils sont oisifs et qu'ils n'ont pas de travail et qui ne vivent que de ces états. Et lorsqu'il y a des personnes qui viennent pour, n'est-ce pas, préjudicier leurs intérêts, ces jeunes n'ont-ils pas raison, n'est-ce pas, de pouvoir réagir?
Bon, apparemment, ils peuvent avoir raison. Mais en fait, partout ailleurs, il y a une exploitation pareille. Il y a une exploitation forestière. Il y a l'exploitation des étangs. Il y a des limites entre groupements. Mais aller jusqu'à faire couler l'essence, c'est ce qui dépasse un peu l'entendement de cette jeunesse, bien entendu, qui cherche du travail. Il y a une explication à caractère purement psychologique. Parfois, c'est une jeunesse qui est informée de ce qui se passe ailleurs.
Honorable,
je dis, oui.
Et ces conflits ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. C'est un phénomène qui est devenu récurrent. Vous semblez incomber la faute à la jeunesse. Pourquoi vous, en tant que notable de cette province, vous avez laissé pourrir cette situation?
Non, franchement, on n'a pas laissé pourrir la situation. Au contraire, il y a eu toujours des réunions. Des réunions au niveau des vieux, des réunions au niveau des chefs des clans, des réunions au niveau des chefs des tribus, et pour conseiller les comportements de cette jeunesse fougueuse. Ben, que si vous voulez, dans l'éducation, dans la formation, il y a toujours des limites. On ne peut pas aller au-delà de ce que l'autre pense. Et je crois bien la vieillesse a fait en sorte que de tels agissements ne puissent pas se produire au niveau de leurs tribus respectives. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est peut-être la politique du ventre affamé qui n'a point d'oreille, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la jeunesse est devenue presque une jeunesse animale, s'il faut qualifier ainsi cette jeunesse.
Honorable, il y a Onesphore Sakana Mousseme de Bounia en province orientale qui dit « Je pense qu'organiser un cadre de concertation, à chaque fois qu'il y a un événement malheureux, nous allons en avoir 12 dans l'année. Et quel a été le but des dernières concertations nationales qui, pour moi, devaient prendre en compte tous ces problèmes de conflits armés et tribales, ceux qui réclament les dialogues national n'ont pas tort?
Non, en tout cas, ils n'ont pas tort. Les concertations nationales, ça constitue une étape. C'est un processus. Il y a un processus. Il y a d'abord les gens qui se sont réunis pour poser des bases réelles d'une organisation sociale. Dès lors que ces bases ont été constituées, ces bases ont été posées, il reste maintenant comment on peut entretenir des principes de gestion de cette organisation. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on parle des présidiums. Le présidium est composé des hommes. Je crois bien ces hommes ont déjà fait de la politique. Ces hommes, ils ont une certaine expérience de la vie, une certaine expérience organisationnelle. Et nous osons croire qu'avec ces hommes, en tout cas, il peut y avoir un changement de comportement.
Merci.
Non seulement dans les chefs de la jeunesse, mais un changement de comportement d'une manière générale.
Merci.
De l'homme.
Merci honorable maître Gilbert Kiatsingé. Je rappelle que vous êtes avocat et expert en décentralisation. Votre analyse par rapport à ces conflits interethniques au sud du Bangui.
Oui, je voudrais commencer par vous remercier de m'avoir associé à cette réflexion. C'est pas la première fois que nous nous retrouvons devant ce micro pour parler de la situation souvent conflictuelle dans la province de l'Équateur. Et je présente en même temps mes condoléances les plus émues à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans ces conflits sanglants. Et donc je voudrais commencer par lancer une réflexion. Parce qu'en fait, je sais que pour comprendre la dynamique d'un conflit, il faut l'analyser en profondeur, c'est-à-dire en déterminer concrètement ses acteurs et son enjeu. Lorsque je suis l'analyse des uns et des autres au sujet de ce conflit-là en province de l'Équateur, j'ai comme l'impression que personne ne maîtrise l'enjeu de ce conflit-là. Quelle est la cause réelle de ce conflit? Personne n'en connaît l'auteur ou les auteurs exacts. Donc on ne fait pas une analyse profonde, une analyse en profondeur de la situation. De sorte que le principe selon lequel les mêmes causes produisent les mêmes effets peut s'appliquer si on ne procède pas à une analyse profonde de cette situation, de cette question.
Et avec parfois, alors, quelles sont les causes profondes, les causes réelles?
À mon avis, je crois que lorsqu'on mène une analyse en profondeur, on se heurte devant d'abord le concept lui-même. Parce qu'on parle de conflit ethnique ou interethnique, alors qu'en réalité, dans le cas d'espèce, lorsque je suis l'analyse des uns des autres, il ne s'agit pas encore d'un conflit ethnique. Il s'agit d'une sorte d'antagonisme où il y a recours aux éléments ethniques, c'est-à-dire un conflit particulier entre les individus, quelqu'un qui a un champ, on ne sait pas délimiter, ou quelques groupes de gens qui ont des problèmes individuels, mais qui recourent à la mobilisation ethnique. Je crois que c'est différent parce que lorsqu'on comprend ces concepts-là, l'approche doit changer, l'approche pour chercher la solution. Un conflit ethnique, c'est un conflit où le groupe comme tel se sent menacé dans son existence. Mais lorsqu'il y a des intérêts individuels des membres de groupe qui sont en jeu et que les acteurs recourent à la mobilisation ethnique, c'est ainsi qu'on vous dit que c'est la jeunesse, hein, désœuvrée.
Vous pensez qu'il s'agit seulement des intérêts individuels, il ne s'agit pas des intérêts collectifs?
En tout cas, le groupe, les ethnies comme groupe.
Parce qu'on parle des terres, quand on parle des états psychologiques.
Oui, mais ce sont des états des individus. Je ne pense pas que les Ngwandi connaissent.
Il y a des villages entiers qui ne vivent que de ça.
Pas forcément. Vous savez, les ethnies vivent en interaction. Dans les territoires occupés par les Ngwandi, il y a aussi les Ngbaka. Ils vivent en communauté. Et donc, il y a des individus qui ont des intérêts particuliers sur ces étangs, qui sont exploités et par les Ngwandi et par les Ngbaka. Et disons, c'était le cas des Inyelés. Et donc, les conflits ethniques, les conflits économiques, les intérêts économiques ou politiques de certaines personnes sont menacés et elles recourent, ces personnes-là, ces acteurs-là recourent à la mobilisation ethnique. Et donc, pour résoudre ce conflit-là, il faut essayer de faire la part des choses entre les conflits ethniques et les conflits où on recourt à la mobilisation ethnique. Ça, c'est le préalable. Maintenant, pour revenir aux causes, parce que je vous ai dit qu'il faut vraiment analyser la situation en profondeur pour y apporter une solution. La fois passée, lorsqu'on a parlé de cas des Inyelés, je vous ai dit qu'il faut d'abord partir du mode de vie, des éléments puisés dans la culture et dans le mode de vie de la population de l'Équateur. C'est une population qui, en fait, vit dans une sorte de pauvreté généralisée. Une population qui vit dans des contrées où il manque les infrastructures sociales de base. Vous trouverez des vastes étendues où il n'y a aucune école, ou même si vous trouvez un hôpital, c'est un hôpital dans un état piteux, il n'y a pas de route. Donc c'est vraiment les besoins sociaux de base ne sont pas satisfaits là-bas.
Et donc cette pauvreté expliquerait
cette pauvreté,
réflexe d'autodéfense,
c'est déjà un facteur.
Ces gènes-là affichent quand on vient préjudicier leurs
c'est
intérêts.
C'est un facteur parce qu'en tout homme, il y a déjà des germes de conflit. Le conflit existe au sein, c'est lié à la nature d'un homme. C'est ainsi qu'il y a des conflits latents et des conflits émergents. Et ici, nous sommes dans le cas des conflits déjà émergents, des conflits qui ont éclaté, c'est-à-dire des pulsions qui se sont exprimées de manière violente. Et donc, lorsque ces conflits-là qui sont intrinsèques à l'homme viennent rencontrer certains terrains favorables, certaines choses, certaines situations, telles que la situation que vit la province de l'Équateur, je vous dis que la prédisposition à la violence est très très élevée. Donc, des jeunes qui ne vont pas à l'école, des jeunes qui vous disent qu'ils ne vivent que de l'agriculture, encore que là, c'est difficile d'écouler les produits. Lorsqu'il suffit d'une sorte d'intercelle, d'un petit élément qui vient donc un prétexte en quelque sorte.
Voilà,
parce que certainement ces jeunes-là qui sont manipulés, ce n'est pas eux qui bénéficient de ces limites-là. Si vous allez sur le terrain, on vous montre les acteurs, ceux qui ont vraiment brûlé les cases, ceux qui ont tué. Vous allez leur demander, montrez-moi votre champ, montrez-moi la limite. On va vous dire que ce n'est pas eux. Il y a certainement des acteurs, mais qui utilisent la fibre ethnique, qui recourent à la mobilisation ethnique pour faire canaliser leurs conflits, leurs intérêts économiques, leurs intérêts politiques.
Nous avons Josaphat Eyale de Kinshasa qui dit: pourquoi le gouvernement congolais n'a jamais pris des mesures préventives en agissant en amont face à ce genre de conflits, mais se contente seulement d'agir en aval pendant que la situation atteint sa phase irrémédiable?
C'est, en fait, l'auditeur me rejoint. La fois passée, je vous ai dit, lorsqu'on faisait le commentaire sur la structure qu'on a mise sur place pour le problème des Ignelés, je vous ai dit, tant qu'on n'a pas résolu le problème à la source, eh bien, ça va revenir. Donc, il faut résoudre le problème en amont. Il ne faut pas attendre que le conflit dégénère, fasse des victimes, qu'il y ait des cases, pour apporter des solutions sous forme à peu près de saupoudrage. Donc, il faut résoudre le problème en amont et pas en aval.
Merci.
Et dans ces conditions, je pense que je rejoins le conseiller qui préconise vraiment la mise en œuvre effective de la décentralisation, parce que là, ça va permettre, n'est-ce pas, de rencontrer certaines ambitions de certains leaders qui manipulent ces jeunes.
Merci.
Et ça pourra un peu propulser le développement et atténuer les tensions. Il y a une autre solution que je vais proposer quand vous allez m'accorder la parole, parce que
voilà,
je vois que vous me l'arrachez déjà.
Merci. Au Kasaï Oriental, la localité de Bakwachimini, en secteur plutôt de Mpemba, territoire de Kabeya Kamwanga, vidée de sa population depuis vendredi à la base, une nouvelle incursion des personnes venues de Tenda au Kasaï Occidental. Selon la société civile locale de Bakwachimini, de Kabeya Kamwanga et l'intenda de Dibaya au Kasaï Occidental, ces disputes des terres arables et le long de la rivière Lukula, à la limite entre les deux Kasaï. Christ Mukand pour le détail.
Le bilan de cette attaque des personnes venues d'un tenda en territoire de Dibaya fait état de 5 cases incendiées dans la contrée agricole se trouvant sous la montagne de Toubeya, en face de Kajengou, renseigne la société civile de Kabeya Kamwanga. Craignant d'être poursuivis par les assaillants jusque dans leur groupement, les habitants des Bakwachimini et Chimpatou ont déserté leur localité. On pense qu'ils seraient toujours dans le secteur de Mpemba, mais ayant trouvé refuge dans un groupement voisin. La police dépêchée en Mpemba n'est pas de retour jusque ce dimanche. La société civile de Kabeya Kamwanga s'inquiète des conditions de vie de ses familles parties de chez elles par ce temps de grosses pluies. Elle parle d'un échec des autorités politico-administratives de Kasaï devant cette crise à la frontière qui ne trouve pas des solutions depuis 2010. S'exprimant à Radio Kapi ce dimanche, le président de la société civile sous coordination de Kabeya Kamwanga préconise que cette fois-ci, l'initiative de la pacification de cette partie du Grand Kasaï soit laissée aux acteurs de la société civile. Il suggère que la MONUSCO apporte son appui logistique et technique à la rencontre entre les délégations de deux provinces sœurs. Bougimaï, Chris Mukand, Radio Kapi.
Séraphin Moulimilois, je rappelle que vous êtes conseiller chargé de la décentralisation au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation du gouvernement central. Et nous allons suivre pour vous cette réaction, n'est-ce pas, qui vient de Bukavu au sud Kivu.
Rebelles, Bahamas et Bukavu au sud Kivu. Les conflits interethniques de cette nature à République démocratique du Congo sont des faits à déplorer. Je pense que les prévenir ou carrément y mettre fin reste encore une utopie tant que l'on ne cessera jamais de le politiser et surtout d'en traiter le dossier au niveau administratif ou judiciaire avec légèreté et subjectivité.
Vous avez suivi l'intervention de cet auditeur, mais nous venons de suivre les reportages de Mbujimaï. Là, encore une fois de plus, un conflit autour des terres arables. Votre réaction?
Oui, je pense que je l'ai bien souligné ici, qu'il y a un problème de sensibilisation, un problème d'intégration de tout ce que nous avons comme priorité dans un besoin de vivre ensemble. La constitution de la République démocratique du Congo, qui a été promulguée en 2006, a essayé de projeter une république qui doit réellement mettre en marche la possibilité où les citoyens, à la base, puissent s'organiser et se prendre en charge. Puisque tout ce que nous aurons aujourd'hui comme conflits liés aux fonciers, liés aux terres, ne trouveront de solution durable que lorsque nous allons normaliser les choses en termes de projets communautaires, en termes de règles à respecter, en termes aussi de voies à suivre pour réellement atteindre le développement. Puisque j'ai soutenu ici que les questions existentielles sont telles que l'on ne peut pas tout politiser alors qu'il s'agit réellement des questions de vie ou de mort. Et à ce niveau-là, je pense que la grande sensibilisation qui est à faire actuellement, c'est d'amener les autorités au niveau provincial de s'assumer véritablement et que les responsables au niveau des ETD puissent intégrer les priorités de développement au niveau des communautés. Puisque vous allez vous rappeler que les compromis politiques entre les fédéralistes et les unitaristes, c'est la décentralisation. Et à ce titre-là, tous ceux qui peuvent aujourd'hui manipuler la jeunesse ont quelle finalité? Ce sont des objectifs politiques, mais pour arriver à annihiler tout ça, il faudrait que ceux qui ont la responsabilité au niveau local essayent de créer des cadres de concertation communautaire où les priorités des projets de développement seront imbriquées et même des communautés, je rejoins les collègues lorsque ils refusent le fait que ce soit une guerre totalement ethnique et la raison de la mesure où c'est plus ou moins communautaire lié au fait qu'il y a un leadership qui essaye de se faire suivre par ceux qui sont impliqués dans son projet. Mais pour mettre fin à cela, nous nous appelons à une autorité locale et responsable qui puisse réellement amener la population à confesser les besoins de vivre ensemble, qui est une exigence constitutionnelle.
Voilà, là, nous, je précise que nous sommes déjà dans la deuxième partie. Que faire pour prévenir les conflits interethniques en RDC? Vous avez évoqué les ETD, les entités territoriales et décentralisées. Et nous rappelons que à la dernière conférence des gouverneurs qui s'est tenue au Kasaï occidental à Kananga, parmi les recommandations, il a été dit qu'il fallait transférer en urgence, n'est-ce pas, les compétences aux ETD. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ces processus?
Non, les processus évoluent correctement. Déjà, il y a plusieurs lois qui ont été promulguées. Puis la loi sur la libre administration, c'est depuis longtemps que ça a été promulgué. En termes de transfert des compétences, maintenant.
Donc sur le plan normatif.
Oui, tout à fait. Mais
et dans les faits?
Dans les faits, en réalité, je peux bien me référer à ceux qui croient à la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous savez, ce qui est déclaré pour que cela se matérialise dans le monde des sens, il faut que vous y croyez. Puisqu'aujourd'hui, le grand problème, moi je reviens d'une mission dans les ETD, on se rend finalement compte au niveau des ETD, il y a ceux qui ne sont même pas au courant qu'il y a une loi de libre administration, en échangeant avec les communautés locales, la société civile.
Et la faute à qui?
Non, il n'y a pas de responsabilité pour dire la faute est à qui. En fait, la mise en œuvre de la décentralisation, c'est une responsabilité collective. Nous avons la responsabilité de nous impliquer tous. Les médias, les communicateurs, vous avez la responsabilité de vulgariser cette loi, d'échanger avec la base sur les acquis dans ce processus. Donc, à ce niveau-là, nous disons que l'unique solution aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de la décentralisation. Ça permettra à ce qu'il y ait des responsabilités partagées au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Et les projets communs seront partagés dans une dynamique de développement. La jeunesse que nous sommes en train aujourd'hui de déplorer qu'elle a dévié, nous avons aussi la responsabilité aujourd'hui de nous assumer pour que cette jeunesse soit réencadrée. Et j'aimais le vœu que les députés de l'Équateur qui sont impliqués et les autorités au niveau provincial vont intégrer cette donne. Merci. Pour essayer de donner la chance à cette jeunesse de se ressaisir pour le développement de l'Équateur.
Nicolas Panza, député national de l'opposition et cadre du parti politique MLC, vous étiez chef de la mission parlementaire qui a séjourné au sud de Ubangi. Que faire pour prévenir les conflits interethniques en République démocratique du Congo? Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient des Mujima et Okasai oriental.
Merci.
Yalvani, Placide, Tiouk, Ambojuma et Okassa Oriental. Cette proposition est d'autant plus importante et la bienvenue car vu l'ampleur que prennent les conflits interethniques dans le pays, de l'Équateur au Kassa Oriental, en passant par les Kassa Occidental, la province orientale et tant d'autres, il faudrait être plus clairvoyant et mettre des garde-fous car la vie humaine est en secret. Cependant, pour rendre cette initiative plus fructueuse, il faut associer les chefs coutumiers dans toutes les campagnes car ils y sont aussi pour quelque chose. Renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, car ces vides profitent aussi aux fauteurs de troubles dans le village. Et en dernier lieu, essayer tant soit de créer un minimum vital acceptable dans nos villages, car la pauvreté cause toujours des conflits à cause des mécontentements des terres arabes.
Honorable Nicolas Panza.
Bon, l'intervenant, je crois bien l'arrondi très bien son message. Mais je voudrais d'abord revenir un peu en arrière quand on parle de la jeunesse. La jeunesse à laquelle nous faisons allusion, ce n'est pas les petits-enfants. Ce sont des jeunes qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont des familles et qui ont des objectifs à atteindre, qui ont un certain comportement qu'ils adoptent face à la situation dans laquelle cette jeunesse vit. Donc, parler de manipulation politique, c'est bien beau. Mais il y a d'abord un problème de l'individu lui-même. L'individu qui se trouve dans une situation de détresse, cet individu est capable de faire tout dès lors qu'il n'est pas encadré. Donc ici, nous devons absolument faire en sorte que l'État puisse jouer son rôle. Le rôle de l'État... D'abord, c'est la formation de cette jeunesse. Il reste à savoir si la jeunesse qui se livre à des barbaries, si cette jeunesse est formée. Parce qu'on peut atteindre l'âge de 20 ans, mais on ne sait ni lire ni écrire. Alors je ne sais pas comment on peut traiter avec une jeunesse pareille. Donc quand je parle du rôle de l'État, c'est d'abord voir comment former, comment éduquer cette jeunesse.
Parce
que dès lors que la jeunesse est éduquée, dès lors que la jeunesse est formée, je crois automatiquement il y aura un changement de comportement.
Honorable.
Oui.
Il y a aussi les facteurs pauvreté. Ces jeunes qui vivent dans la pauvreté, n'est-ce pas une proie facile à toutes sortes de manipulations?
Manipulation, je n'en disconviens pas. Mais il faudrait le dire avec une certaine objectivité, avec une certaine honnêteté. On dit les politiciens. Mais qui sont-ils? Dès lors qu'ils manipulent la jeunesse, quel est l'objectif à atteindre? Est-ce que c'est tuer les gens? Est-ce que chercher à remplacer quelqu'un qui est au pouvoir? C'est ça la grande question.
Alors,
c'est
ainsi
que j'ai dit ceci.
Oui.
Parfois, les agissements de la jeunesse viennent de cette jeunesse elle-même, parce qu'elle n'est pas formée. J'insiste sur le mot formation et je sais pourquoi je l'ai dit. Alors si quelqu'un n'est pas formé, je vous l'ai dit, il est capable de tout et surtout que s'il se trouve dans une situation de pauvreté extrême, le comportement actuel, à mon humble avis, vient de la situation de pauvreté dans laquelle nous nous trouvons nous tous. J'ai lu sur la figure de ceux-là même que j'ai interrogé. Quelqu'un qui dit, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Mais dès lors qu'il voit quelque chose, mais il est disposé à pouvoir s'en emparer, à pouvoir accaparer cette chose, il est disposé à pouvoir faire n'importe quoi.
Merci.
Alors maintenant, quelle sera maintenant la solution? La solution n'est pas immédiate. La solution doit se trouver dans un processus. Un processus, d'abord, il y a quelqu'un qui a parlé de l'organisation, d'un cadre de concertation permanent. Et c'est ça ce que nous avons proposé, c'est ça ce que nous avons donné comme recommandation au niveau du gouvernement par les truchements de l'Assemblée nationale. Un cadre de concertation où l'on trouvera les chefs de tribus, les chefs de groupements qui, par moment, doivent absolument se rencontrer pour parler de leur groupement, pour parler de leur jeunesse, pour parler de leur développement dans le sens d'abord du travail. Parce
Merci.
Qu'on ne peut pas parler du développement si on ne travaille pas.
Merci honorable.
Alors,
merci maître Gilbert Kassinguet. Je rappelle que vous êtes avocat expert en décentralisation. Que faire pour prévenir les conflits interethniques en RDC? Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient des Kananga au Kassai occidental.
Maître Adrien Ilobakwei Pero à Kananga, au Kasaï occidental. Le conflit ethnique est un vrai problème pour toutes les provinces du pays. La solution, à mon humble avis, est la revisitation des limites entre provinces, entre territoires d'une part, et de l'autre, l'installation effective et le fonctionnement des tribunaux de paix pour connaître tous ces litiges entre ethnies.
Maître Gilbert Kassingué.
Je voudrais d'abord remercier le confrère qui vient d'intervenir. Son intervention me permet justement de marteler et d'insister sur le fait que pour proposer une solution à un conflit ethnique, il faut en connaître et l'enjeu et les acteurs. Vous voyez qu'il y a, beaucoup de conflits, des sortes de conflits dans ce pays. Au Bandundu, il y a eu des cases brûlées, il y a pas une année. Et au Kasaï, là-bas, c'est un problème de limite entre provinces. À l'Équateur, c'est un problème de limite des champs.
Non, non, mais il y a de ça quelques mois, on avait organisé une cérémonie en grande pompe pour réconcilier les Enyele et Monzaya, mais quelques mois après, les conflits ont résurgi.
Je l'avais déjà annoncé lors de l'émission consacrée à cet effet. Et donc, je crois que le problème fondamental, c'est un problème de misère généralisée. Et contre ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. La solution passe par la mise en œuvre effective de la décentralisation. Et là, je voudrais contredire.
Mais la décentralisation, même si elle est mise en œuvre, lorsqu'elle est mal interprétée, n'est-ce pas, par la base, est-ce qu'elle ne pourrait pas être un facteur qui viendrait, n'est-ce pas, jeter de l'huile au feu?
C'est pourquoi je parle de la mise en œuvre effective. La mise en œuvre effective passe par les élections au niveau des chefferies, des secteurs, des communes, des villes. Et donc, lorsque les intérêts des uns et des autres sont pris en compte, parce que les organes vont fonctionner, vont bénéficier des renforcements des capacités. Hein, contrairement à ce que le collègue a dit, ce n'est pas la loi sur la liberté de province qu'il faut connaître au niveau de la base, mais la loi qui organise les entités territoriales décentralisées. Et donc, c'est ça qui organise, qui montre non pas les compétences, mais les attributions dévolues à ces entités territoriales, aux organes de ces entités. Ça, c'est l'une des solutions. Mais la solution la plus efficace, c'est celle que j'ai même entendu un syndicaliste l'a proposé au Nord Kivu. Moi, personnellement, je suis au courant, je croyais que le député qui intervient allait en parler. Il y a un projet de loi dont je ne connais pas très bien l'intitulé, mais un projet de loi qui tend à amener le gouvernement à intervenir dans certaines entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en faillite, qui sont presque en arrêt de fonctionnement, mais des entreprises qui pouvaient canaliser beaucoup d'ouvriers. Par exemple, au Nord Kivu, il y a des entreprises où on peut trouver, comme la CMSO Mikiu, 20 000 ouvriers,
oui,
40 000 jeunes.
Vous allez conclure donc, parce que nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous entrevoyez l'année 2014 sans conflit ethnique au Congo?
Bon, je vous ai dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit entre ethniques ou conflit à mobilisation ethnique. Je préfère en parler ainsi. Ça, c'est inévitable. D'autant Merci. Plus qu'il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup d'enjeux hein, qui sont des facteurs conflictogènes.
Merci. Conseiller Séraphin Moulimilois, votre conclusion? Est-ce qu'on peut dire qu'en 2014, il n'y aura pas assez de conflits interethniques?
J'ai m'élevé pour que nous puissions réellement espérer la mise en œuvre totale de la décentralisation, puisque tout ce que nous voulons comme solution trouve solution au niveau du pouvoir local.
Merci.
Puisque la décentralisation organise au niveau local l'intégration de tout ce qu'on considère aujourd'hui comme éléments membres du cadre de concertation.
Merci, honorable Nicolas Panza. Votre conclusion?
Oui, les conflits sont inhérents à l'homme. L'homme, en tant que réalité dynamique, doit faire en sorte qu'il puisse surmonter les conflits.
Merci, c'est la fin de cette émission. Paul Obadiania m'a été à la technique. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Alain Irung, Kéline Couté, Samuel Kachak, sous la supervision de Martin Sabou-Jangwe, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.